Cette émission vous est proposée en partenariat avec l'Association européenne de radio, Euranet.
Carrefour de l'Europe.
Σταυροδρόμι της Ευρώπης.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Punto de encuentro de Europa.
Europejskie skrzyżowanie.
Daniel Desesquel.
Bonjour, bonsoir et bienvenue au Carrefour de l'Europe. Comment va la droite au lendemain des élections européennes? Elle va bien, merci. Elle progresse un peu partout, qu'elle soit au pouvoir ou dans l'opposition. Comment vont les Verts européens? En progrès, surtout en France, où l'effet Cohn-Bendit a fait mordre la poussière aux socialistes. D'ailleurs, ces élections, malgré la crise, n'ont guère réussi aux sociodémocrates. Ils sont en recul presque partout. Quant aux extrémistes de droite, ils ont réussi quelques notables percées aux Pays-Bas ou en Autriche, par exemple. Le Parlement européen version 2009 s'apprête donc à accueillir de nombreux nouveaux députés et parmi eux quelques Benjamins. Le plus jeune des Français s'appelle Damien Abad, il est UMP. La plus jeune est verte, son nom Karima Deli. Nous les entendrons. Dans quelques instants, le regard européen de Courrier International, ce sera avec Éric Maurice, suivi d'une vision très particulière d'une Europe en devenir avec l'écrivain russe Andrei Makin. Mais tout de suite, avec vous Mochaya, le mot et le chiffre européen de la semaine. Maud, bonjour.
Bonjour.
Alors le chiffre, je me frotte les yeux pour y croire, vous avez dit 0 euro.
Oui, 0 euro, c'est ce que risquent de toucher les salariés de British Airways au mois de juillet. Certains en rêvaient depuis longtemps, la compagnie britannique l'a fait. British Airways affirme se battre pour sa survie et a donc demandé à près de 30 000 de ses salariés de travailler gratuitement pendant une période allant d'une semaine à un mois. L'autre alternative étant de prendre un congé sans solde. British Airways a donc créé le travail gratuit. Le message du directeur général est clair, il faut aider l'entreprise à survivre. Il a également promis tout de même de faire un effort. Il ne sera pas non plus rémunéré au mois de juillet, mais avec environ 900 000 euros par an, il devrait pouvoir vivre correctement cet été. Cette requête n'a toutefois pas de caractère obligatoire et elle n'empêchera pas d'éventuelles suppressions d'emplois.
Alors je suis à peu près réveillé, mais j'y crois toujours pas. 0 euros, incroyable pour une semaine ou un mois de travail. Alors le mot Maud, cette semaine, il a une consonance quelque peu barbare, même s'il ne l'est pas, c'est Monugue. Et c'est quoi Monugue?
Eh bien Monugue signifie mission d'observation des Nations Unies en Géorgie. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de cette mission? Eh bien tout simplement parce que son mandat a expiré cette semaine et qu'en raison d'un veto russe au Conseil de sécurité des Nations Unies, il n'a pas été renouvelé. Les observateurs de l'ONU vont donc devoir quitter le territoire géorgien dans les plus brefs délais, moins d'un an après la fin de la guerre entre la Russie et la Géorgie. Pourtant on ne peut pas vraiment dire que la situation s'est stabilisée depuis la fin du conflit, bien au contraire. Le dialogue est totalement rompu entre Tbilissi et les deux régions séparatistes et les Russes sont encore omniprésents en Ossétie du Sud et en Abkhazie. Moscou a même renforcé ses effectifs. La tension est également palpable en Géorgie où les opposants au président géorgien Mikhail Saakachvili manifestent depuis 2 mois quotidiennement dans les rues pour réclamer sa démission. C'est donc dans un climat pour le moins instable que les Nations Unies plient bagage. Ils ne sont pas les seuls. La Russie a également empêché le renouvellement du mandat de la mission de l'Organisation pour la coopération et la sécurité en Europe, c'était il y a quelques mois. Et donc, dès la fin du mois de juin, il n'y aura donc que les observateurs de l'Union européenne entre les Russes et les Géorgiens. Mais ces derniers n'ont accès ni à l'Abkhazie, ni à l'Ossétie du Sud.
Alors, comme on dit quand on n'a pas grand-chose à dire, affaire à suivre. Merci, Maud.
Carrefour de l'Europe.
Il est le plus jeune, elle est la Benjamine, à moins que ce ne soit l'inverse. Damien Abad a 29 ans, tendance UMP Nouveau Centre. Il a été imposé en position éligible par Hervé Morin, le ministre français de la Défense. Sa passion pour l'Europe a fait le reste. Il a convaincu les électeurs du sud-est de la France et le voilà, plus jeune eurodéputé français. Damien Abad, impression et ambition.
D'abord beaucoup de joie et beaucoup de bonheur et ensuite une exigence de responsabilité. Je crois qu'effectivement en étant le Benjamin des eurodéputés français et le plus jeune depuis que l'élection du Parlement européen au suffrage universel existe, je crois que c'est aussi une responsabilité qui est forte, celle d'abord de réconcilier les jeunes avec l'idéal européen et ensuite celle de remplir son mandat de la meilleure manière qui soit. Donc oui, d'abord une immense joie, mais ensuite surtout un grand défi et un grand challenge à relever.
Alors vous avez une explication, vous, justement, sur le fait que les jeunes, globalement, n'ont pas vraiment voté, ils se sont relativement abstenus. Est-ce que vous avez une explication? Est-ce que vous avez, vous dites, l'ambition de réconcilier les jeunes avec l'Europe? Comment?
Oui, c'est vrai qu'on a déjà remarqué un premier décrochage dès le référendum sur le traité constitutionnel en 2005, où les jeunes étaient l'une des deux catégories de population qui avaient décroché par rapport à l'idée européenne et plutôt voté non. Nous avons dit tout au long de la campagne qu'on voulait réconcilier cette France du oui et cette France du non. Et au niveau des jeunes, il y a deux, trois sujets moi, qui me tiennent particulièrement à cœur, surtout faire en sorte que chacun d'entre eux puisse avoir une expérience concrète avec l'Europe et que l'Europe ne concerne pas simplement les jeunes diplômés de l'enseignement supérieur, mais s'adresse à tout le monde, aux apprentis, aux entrepreneurs, aux chercheurs, etc. etc. Et je crois que c'est vraiment important, il faut qu'on remette l'Europe au cœur des préoccupations quotidiennes des Français.
Alors vous, votre intérêt pour l'Europe vous est venu quand et comment ?
Depuis tout petit, j'ai un intérêt pour l'Europe et pour la politique. J'ai réalisé, notamment lorsque j'étais à Sciences Po, un guide sur les métiers de l'Europe, donc dans le cadre de mon projet collectif. Donc c'est quelque chose qui m'a passionné très tôt. J'ai suivi des enseignements de questions européennes. Et surtout, mon engagement politique, vous savez, à l'UDF. Et à l'UDF, l'Europe, nous l'avons chevillée au cœur. Je crois que c'est l'une des raisons même de mon engagement politique, de notre engagement.
Alors quelles vont être vos priorités le mois prochain, c'est-à-dire à partir du moment où vous allez siéger au Parlement européen?
Écoutez, j'avais dit que mon premier combat, ce serait le vin rosé coupé. Fort heureusement, la Commission européenne a renoncé à autoriser le coupage du vin rosé. Donc je crois que ça, c'est déjà un premier élément de satisfaction. Ce qui concerne les autres chantiers, ça sera dans le domaine économique et financier, puisque je devrais être dans une commission à caractère économique et financier, où l'objectif, c'est de mettre en place les conclusions du G20 qu'a rendu le président de la République lors du G20, à savoir sur le secret bancaire, sur aussi les paradis fiscaux ou encore la réforme des agences de notation. Je crois que c'est des éléments importants. On a vu que l'Europe pouvait être un bouclier anti-crise et mon objectif, c'est justement de permettre à l'Europe d'être cet espace de protection face à la crise. Et la deuxième chose, comme je suis jeune, un certain nombre de sujets me tiennent à cœur. J'ai pour volonté de créer une charte sur les libertés numériques, une charte numérique sur un certain nombre de droits fondamentaux, parce qu'aujourd'hui, on a la charte des droits fondamentaux qui existe, mais les libertés numériques ne sont pas garanties. Or, ce sont les libertés de demain. Je vous prends simplement un exemple tout simple. Le droit à l'oubli, c'est un droit qui existe dans votre casier judiciaire et qui aujourd'hui n'existe pas sur l'espace Internet. Je crois qu'on a des choses à faire là-dessus. Et puis, le deuxième chantier important, c'est ce Grenelle européen de l'environnement, avec bien sûr la mise en place d'une taxe carbone au niveau européen. Je crois que ça aussi, c'est un chantier important. Vous savez, l'Union européenne s'est construite sur la communauté européenne du charbon et de l'acier. Et je crois que le défi de demain, c'est celui de l'énergie. Et donc, nous souhaitons créer une communauté européenne de l'énergie. Et je pense que ça se rapprochera de la commission dans laquelle je siégerai au Parlement européen.
Patrick Adam, bonjour.
Bonjour.
Si Damien Abad, en deuxième position sur la liste UMP du Sud-Est, était quasiment certain d'être élu, ce n'est pas le cas de Karim Adeli, à la quatrième place sur les listes Europe Écologie en Ile-de-France, bien après Daniel Cohn-Bendit et Eva Joly.
Oui, Karim Adeli, c'est l'une des surprises de ces élections européennes. Elle a 30 ans, elle est 9e d'une famille de 13 enfants. Son père est d'origine algérienne, ouvrier. Elle-même était jusqu'à présent assistante parlementaire de Marie-Christine Blandin, une sénatrice verte du nord de la France. Pendant la campagne, elle a participé à plus de 70 réunions publiques, parfois au fin fond des banlieues, et ce n'est pas toujours facile.
Alors moi, ma démarche aujourd'hui de vous prendre la parole, c'est de vous expliquer qui je suis et quel est le projet que j'ai envie de vous présenter. Je viens de préciser aujourd'hui d'être devant ce micro et de faire de la politique.
Vous l'avez dit, Daniel, en Ile-de-France, autrement dit en région parisienne, les Verts espéraient 2, peut-être 3 députés élus. Karim Adeli était 4e sur la liste. Alors, en fin d'après-midi, quand tombent les sondages, elle-même n'ose pas y croire.
Vous voulez peut-être être élue en tant que députée européenne ?
On
n'est pas élu.
En Ile-de-France ?
20,4.
20,4.
Encore monté ? 20 ou 20,4.
Ah oui. 20,4.
Ça se joue à 0,5% sur 3 listes. Mais là, actuellement, tu passes sur le sondage.
Non, mais attends, c'est pas ça.
Non, sur le sondage.
Et finalement, le résultat devient officiel et c'est un destin qui bascule en direct. L'étudiante en sciences politiques qui se voyait dans le futur conseillère régionale se retrouve propulsée à Strasbourg.
Une carrière politique commence Je suis l'une des plus jeunes, voilà. Alors je ne finirai pas ma thèse. Je présente mes excuses à mon directeur de thèse. Ça va prendre un peu plus de temps, mais je suis heureuse.
Karim Adeli, on la découvre, elle n'est pourtant pas une inconnue, Patrick.
Et pour cause, hein, c'est une militante déjà bien connue des médias en France. Il faut dire qu'elle est la cofondatrice de Jeudi Noir, qui dénonce la crise du logement, et de Sauvons les riches, deux collectifs qui mélangent arguments politiques et dérision. Sauvons les riches avait, par exemple, décerné un diplôme de fils à papa à Jean Sarkozy, le fils du président, lui aussi entré en politique. Un collectif qui mène des actions coup de poing teintées d'humour, comme ce jour-là, quand ils investissent le Bristol, hôtel-restaurant parisien très chic, où d'ailleurs le chef de l'État a ses habitudes.
Merci, bonjour.
Le collectif Sauvons les riches vient vous rendre visite. Nous venons à la rencontre de nos amis les vrais riches pour leur faire connaître notre revendication, limiter les plus hauts revenus.
Enchanté, nous sommes le collectif Sauvons les riches.
Et nous, et vous-même, nous sommes
de la sécurité.
Ah, bonjour la sécurité.
Alors,
c'est la pétition aussi.
Ah, alors, c'est
la pétition.
Par ici.
Pourquoi par ici et pas par là ?
Non, non, mais sortez, s'il vous plaît,
s'il vous plaît. Mais pourquoi vous me tapez dessus, s'il vous plaît ?
Et voilà, on se quitte en musique avec l'hymne de Sauvons les riches qui vous rappellera, Daniel, d'autres chansons, d'autres combats, d'autres époques. En ce temps-là, on chantait pour sauver l'Afrique.
Nous ne pouvons laisser quiconque devenir plus riche que nous.
Tous les riches du monde se donnaient la main. Nous serions sûrs d'être les plus riches demain.
Sauvons les riches, ceux de chez nous, et même ceux qu'on connaît pas, qui sont riches et on le sait pas. Sauvons les riches et qu'ils organisent l'argent, c'est de l'amour.
Voilà, on devrait remarquer Karim Adeli sur les bancs du Parlement européen de Strasbourg et de Bruxelles, même si elle ne chante pas en direct sur à sa place, à son banc. La chanson et les vidéos de Karim Adeli sur la page de l'émission, tapez Carrefour de l'Europe RFI sur votre moteur de recherche préféré. Et puis il faut tout de même préciser que ni Damien Abad ni Karim Adeli ne seront les plus jeunes sur les bancs du Parlement de Strasbourg, puisque la Benjamine sera une Danoise, Émilie Turunen, et elle n'a que 25 ans.
Le regard de Courrier International.
Bonjour Éric Maurice.
Bonjour.
Avec vous et Courrier International, nous revenons sur le succès des droites européennes lors des dernières élections. Et c'est une journaliste américaine qui analyse cette situation, disons paradoxale.
Oui, Anne Applebaum est une des principales chroniqueuses de la presse américaine. Elle écrit beaucoup dans le Washington Post. C'est également une très bonne connaisseuse de l'Europe. Et donc elle s'est penchée un petit peu sur les résultats de ces élections européennes, où elle découvre, un peu comme nous, Européens, beaucoup de paradoxes. Le fait que le Parlement a plus de pouvoir et que les électeurs ne se mobilisent peu. Le fait que finalement, vu de l'extérieur, en particulier des États-Unis, c'est le meilleur moment et le meilleur moyen pour avoir une vue générale de l'ambiance en Europe, puisque tous les pays votent en même temps. Et donc, ça lui permet de constater, eh bien, que malgré la crise, autre paradoxe, apparent, la droite et les partis de droite, de centre-droit s'en sortent bien, puisqu'en France, en Allemagne, en Italie et en Pologne, soit 4 des 6 plus grands pays de l'Union européenne, les gouvernements de centre-droit ont suscité un enthousiasme inattendu, écrit-elle dans Slate, qui est un webzine, hein, un journal en ligne. Elle fait remarquer que dans les deux autres grandes nations de l'UE, la Grande-Bretagne et l'Espagne, les partis de gauche au pouvoir ont largement été battus. Alors, elle essaie d'expliquer, évidemment, pourquoi ? Et l'explication, hein, qui est intéressante, vue de Washington, c'est que cette victoire, écrit-elle, tient au fait que les responsables politiques de la droite européenne ont le courage de leurs convictions économiques. Et oui, parce que, loin des déficits budgétaires de George W. Bush, qui pourtant est conservateur, ou des dépenses frénétiques de Barack Obama, eh bien, les dirigeants de droite en Europe ont maîtrisé leurs dépenses publiques. Que dans les pays où les dépenses ont atteint des sommets, comme la Grande-Bretagne, eh bien, cette politique n'a pas réussi à s'attirer la sympathie de la population. Et donc pour elle, eh bien, la droite se porte bien parce qu'elle arrive à être conservatrice sur le plan fiscal, mais assez au centre sur le plan social, qu'elle n'a pas été contaminée par la mode des grandes dépenses. Et donc c'est ce qui lui permet d'avoir remporté ce succès lors des élections européennes.
Alors Eric, comme à l'habitude, cet article et bien d'autres sont à lire dans Courrier International. Mais Courrier vient de lancer un site que tous les amis de l'Europe et tous ceux qui s'intéressent à l'Europe de près ou même de loin se doivent de visiter.
Oui, le site s'appelle s'appelle Presse Europe, PRE2SEUROP, donc pas de E à la fin de Europe, presseeurope.eu. Et donc c'est effectivement Courrier International avec trois partenaires européens, Internationale en Italie, Forum en Pologne et Courrier International au Portugal, qui a décidé de, après un appel d'offres de la Commission européenne, de lancer ce site qui est en 10 langues. Et donc chaque jour sont traduits, choisis et traduits plusieurs articles de la presse européenne et traduits dans les 10 langues pour suivre bien l'actualité politique, mais aussi culturelle ou sociétale de l'Union européenne, vue par la presse des 27, mais aussi par la presse des autres pays aux alentours, à la périphérie de l'Europe et d'un peu plus loin dans le monde quand les sujets sont pertinents.
PresseEurope.eu. Eric, merci et à la semaine prochaine, en tout cas je l'espère, pour un nouveau regard européen de Courrier International.
L'Europe, 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 c'est cela l'Europe.
Chaque semaine, nous vous invitons à découvrir un point de vue très personnel sur l'Europe. Et aujourd'hui, c'est l'écrivain russe Andrei Makin qui nous donne sa vision de l'Europe, une Europe du genre soviet-européen.
Il faut distinguer deux choses, l'Occident et l'Europe. Donc il y a eu deux Occidents pour nous, l'Occident américain, donc l'Occident très économique, l'Occident de la richesse, et puis l'Occident intellectuel, l'Occident culturel qui était nécessairement la France. Puis du point de vue politique, on a eu quand même assez tôt la conscience d'une Europe humaniste, large, ouverte, celle du général de Gaulle, l'Europe de Brest jusqu'en Oural. Et puis cette Europe qui s'est créée, c'est une Europe étriquée, commercialiste, financiariste, l'Europe des fonctionnaires, l'Europe des petites magouilles, qui est l'Europe actuelle, hélas. Donc une Europe qu'on voyait comme un grand rêve humaniste, et qui, à mon avis, devrait un jour se réaliser. Moi, je suis très optimiste. Et puis, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire cette immense nébuleuse, dont je ne saurais pas dire trop de mal, qui marche plus ou moins, mais qui laisse peu d'espoir aux peuples qui vivent dans les pays d'Europe.
À vous écouter, j'ai l'impression que l'Europe, c'est un peu le soviet européen.
C'est un peu ça. Et je pense que l'Europe actuelle, elle est en train d'abord de violer l'histoire et de violer la géographie. Il y a plusieurs Europes, on le sait très bien. Il y a l'Europe balkanique, il y a l'Europe du Sud, il y a l'Europe du Nord, il y a le noyau dur, l'Allemagne, la France, la Belgique. Et peut-être, me dis-je, ne serait-ce pas mieux de respecter un peu ces différences géopolitiques ou plutôt tout simplement géographiques et historiques de ces Europes qui sont différentes. Et pourquoi ne pas penser à une Europe concentrique, c'est-à-dire il y a des cercles, oui, il y a des cercles, il y a des régions avec leur identité très prononcée, mais qui s'attachent à une Europe, mais sans cette rigidité que Bruxelles ou que Strasbourg nous impose. Mais essayer de penser l'Europe seulement en termes bureaucratiques, ça m'effraie. Moi, je suis très attaché à cette large vision de l'Europe de De Gaulle. Et nous oublions aussi la facilité avec laquelle les gens voyageaient avant la révolution de 1917. Les Russes ne demandaient pas de visa pour Paris. Ils allaient à Paris, ils avaient assez d'argent pour acheter le billet, ils partaient à Paris. Donc nous n'oublions pas cette Europe de la belle époque d'avant la guerre 1914, qui était déjà très unie, mais c'était une époque beaucoup plus libre, beaucoup plus culturel que ce monstre bureaucratique qu'on nous présente aujourd'hui.
L'écrivain russe Andrei Makin, son dernier livre est paru au Seuil. Il s'intitule « La vie d'un homme inconnu ». Comme vous le savez, l'antenne de RFI est perturbée par un mouvement social suite à l'annonce d'un plan qui prévoit la suppression de 206 postes et l'abandon de 7 des 19 langues parlées par RFI, notamment l'allemand et le polonais. Et de ce fait, nous ne serons pas en mesure de vous proposer la deuxième partie de Carrefour de l'Europe. Je vous prie de nous en excuser. Par contre, comme à l'habitude, pour nous retrouver sur Internet avec les blogs, les sites, les vidéos de nos invités, ben rien de plus simple, Carrefour de l'Europe RFI, sur votre moteur de recherche préféré. Daniel Desesquel, je vous souhaite une bonne semaine, où que vous soyez, en Europe ou ailleurs.
Cette émission vous a été proposée en partenariat avec l'Association européenne de radio, Euranet.